Écrivain, conteur et éditeur, Roger Lagrave a choisi ses plus belles pages. Les contes et récits de Florac, c'est tout de suite sur Radio Bartas.
Des fées dans le jardin. Grand-mère, tu me racontes souvent des histoires de fées, mais où sont-elles? Je n'en ai jamais rencontré. Lorsque j'avais ton âge, j'en ai rencontré une. C'était à la fontaine Saint-Martin, où elle lavait ses cheveux d'or. Ce devait être là la dernière, depuis je n'en ai plus rencontré. Sont-elles mortes? Ou bien sont-elles parties ailleurs? Dans des pays plus accueillants que le nôtre, moins pollués. Ce serait bien dommage, car nos campagnes étaient plus belles lorsqu'elles habitaient nos grottes et nos rochers, quand elles se baignaient dans nos lacs, lorsqu'elles dansaient au clair de lune. La trace de leur valse folle se retrouve encore gravée en creux sur certaines dalles que l'on appelle la roche aux fées. Dans les brumes, après la pluie, dans le vent soufflant sur la lande, dans la clarté blonde de la lune claire, on les voyait passer dans leurs robes de brouillard. Elles étaient dans les perles de la rosée, accrochées à la dentelle de la toile de l'araignée. Le menhir était la quenouille d'une fée oublieuse. Elles avaient transporté les dalles du dolmen, et chacun croyait à ces rustiques légendes, de sorte que de nos sources coulait une eau claire et toujours renouvelée. L'arrière du laboureur s'arrêtait aux bornes et aux chemins dont elles étaient les gardiennes. Plus vieilles que nos plus vieux anciens, elles nous enseignaient le respect de ce qui vient du passé, le patrimoine. On laissait pousser les arbres, grandir les forêts, on réparait le vieux four, on entretenait la chapelle isolée, on restaurait le clocher des tourmentes. Puis est arrivé le progrès. Pour établir la voie de chemin de fer, pour élargir la route et en faire une autoroute, on a coupé des arbres, supprimé des forêts, comblé des étangs. On a aménagé l'avenne et la grotte pour la visite des touristes. On a canalisé la source et ajouté du chlore à son eau pure. On a analysé l'eau des sources, miraculeuse, pour en connaître la teneur en fer ou en calcium. Plus de grottes, plus de forêts, plus de marécages. Où pouvaient-elles vivre, nos pauvres fées? Elles sont parties. Le paysan n'a plus cru à ces histoires d'autrefois. Même les enfants ont refusé ces vieilles lunes. Quand l'une de ces fées frappait au volet de la maison, lorsque se tenait la veillée au coin du feu, pour dire qu'elles étaient là, à écouter elle aussi, le maître de maison disait « Ce n'est rien, c'est le vent, et la veillée continuait sans elle. » On est allé jusque sur la lune pour savoir ce qu'était cette femme qui porte un fagot sur le dos et que l'on aperçoit lorsque la lune est pleine. Il n'y avait pas de femme, pas de mystère, seulement des volcans éteints et des pierres. Leurs baguettes magiques ont perdu leur pouvoir, leurs légendes ont été oubliées. Elles sont devenues de vieilles femmes, au nez crochu, aux cheveux en bataille, avec des verrues sur le visage, des sorcières à faire peur aux enfants. Elle, si serviable, aidant la maman dans ses lessives, rangeant la vaisselle, filant et tissant, préparant la baume pour les blessures, les voici, Facineros, sorcière réfugiée au plus profond des grottes encore inexplorées. Tu peux aller dans la forêt, tu n'y rencontreras pas de fées, ni de sorcières d'ailleurs, tout ce monde magique a disparu. Il ne nous reste plus que les broussailles et les ronces qui envahissent les chemins, que la tornade qui abat les arbres, que l'incendie qui anéantit la forêt, que la crue qui emporte la bonne terre, et bientôt, le désert. Ah, que reviennent les fées, nos bonnes fées d'autrefois! Oui, mais par quel miracle? Par le pouvoir de quelle baguette magique? Il n'y a plus de baguette, et plus de magie? Viens avec moi, me dit alors ma grand-mère. Nous allons rendre visite à nos fées. Elle me conduisit dans son jardin, attenant à la maison. Ma grand-mère, comme toutes les personnes de son âge, entretenait un jardin potager. Pour les salades, les soupes et les ragoûts, il suffisait de descendre au jardin. L'entrée en était surveillée par un magnifique sureau qui poussait là, solitaire, sans autorisation particulière. « Dis bonjour à la fée du sureau. » Elle s'approcha de l'arbre et en caressa l'écorce. Elle marmonna quelques mots, sans doute magiques, dont le sens m'échappa. Tout arbre est habité par une fée, bonne ou mauvaise. Au printemps, le sureau me donne ses fleurs qui sont comme des ombrelles de dentelle. On en fait des beignets, des sirops. Elle guérissait les yeux des malades. À l'automne, des grappes de baignoire peuvent devenir confitures. Elles sont le régal des merles et des mésanges. Un arbre si généreux ne peut être habité que par une bonne fée, respectée pour tous ses dons. Dans notre promenade, nous rencontrâmes un amandier au tronc tortueux. Saluons la fée de l'amandier, la fée fidèle. Ma grand-mère, dont la tête était remplie de légendes, me raconta alors Phyllis, une fée grecque, était amoureuse d'Acomas. Soldat, il participait à la guerre de Troie, qui n'en finissait pas. Phyllis attendit le retour de son fiancé. Elle attendit longtemps, trop longtemps. Finalement, pensant qu'il ne reviendrait plus, elle mourut de chagrin. Héra, la fée des amours fidèles, émue par la fidélité de Phyllis, la transforma en amandier. Lorsque Acamas revient de la guerre, enfin terminée, il rencontra l'amandier. Alors que le printemps n'était pas encore là et que les bourgeons retenaient leurs feuilles, l'arbre était déjà couvert de blanches fleurs, le voile de la mariée au jour des épousailles. Chaque année, la fée de l'amandier, à travers la blancheur de sa floraison, nous raconte la fidélité de Phyllis et nous fait partager la douleur de l'attente. Mais aujourd'hui, qui entend la petite voix de l'amandier et de la fée qui l'habite ? Qui se découvre devant un amandier en fleurs pour célébrer avec lui la fidélité ? Nous arrivâmes devant le laurier. Est-il habité, lui aussi ? Bien sûr, par la fée Daphné. Alors qu'Apollon allait la conquérir, Zeus, le dieu des dieux, jaloux, consigna Daphné dans un laurier où elle est toujours. Dès lors, j'approchai le laurier avec respect. Poursuivant notre promenade d'arbre en arbre, nous arrivâmes alors au petit cimetière familial qui se blottit au coin du jardin. Nos ancêtres, ayant été protestants, eurent le droit de se faire enterrer chez eux, près de la maison, dans le jardin. Un grand cyprès monte la garde. La fée qui l'habite conserve le souvenir des morts enterrés là. C'est une fée sérieuse, réservée, qui ne fréquente guère le monde des vivants, ce qui lui donne cet air sévère. J'ai toujours dans ma poche une boule de cyprès. De temps en temps, je la serre dans mon poing et elle m'aide à penser aux anciens qui dorment à l'ombre du cyprès. Surtout à Juste, qui fut mon mari. Tour à tour, nous rencontrâmes le châtaignier et la fée Providence, le prunier et sa fée Prunette, la fée Pomine se cachant dans le pommier. Toute pleine de bonne volonté, prête à rendre service à tous, moyennant quelques soins et peu de respect. Ainsi, chaque arbre abrite sa fée. Pour en sentir la présence, il suffit de le croire. Elles ne sont plus dans les grandes forêts comme autrefois, ni dans les grottes ou les fontaines. Pour fuir les méfaits de la pollution, elles se sont réfugiées dans nos modestes jardins, cultivées sans engrais chimiques, ni pesticides, mais avec amour et manches retroussées. Ah, que revienne le temps des bonnes fées dans nos jardins.